Et bonjour, bonjour, bienvenue sur nos antennes Radio Imo, Radio Territoria. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale consacrée au prochain salon des sports et parasports. La troisième édition se tiendra du 18 au 20 novembre à Paris Expo, porte de Versailles. En parallèle du Salon des maires et des collectivités locales, il vise à réunir tous les acteurs du sport, du parasport, des collectivités, des associations et des entreprises autour des solutions, des innovations et des pratiques pour le sport pour tous, sur tous les terrains. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités qui incarnent le dynamisme et l'avenir du sport en France et particulièrement dans nos territoires de montagne. Stéphanie Gatorande, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du Salon des sports et parasports qui nous prépare donc une troisième édition prometteuse. Et Olivier Riffard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de l'ANEM. Alors l'ANEM, c'est l'Association Nationale des Élus de la Montagne qui représente plus de 6000 élus de nos massifs français, puisque c'était cette année, cette édition, le salon met à l'honneur les sports de montagne avec une grande nouveauté, le refuge dont on va parler, une attention particulière qui résonne avec les enjeux portés par l'ANEM et l'approche des Jeux Olympiques d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises, et on en est fiers. Alors première question pour vous Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler de ce salon, nous exposer la ligne directrice que vous souhaitez donner justement à cette édition 2025 et puis comment elle s'inscrit justement dans les nouveaux défis que vous voulez porter?
Alors le salon des sports et parasports, il est porté par de nombreux partenaires qui en sont aussi à l'initiative, puisque historiquement il y avait l'activité, le secteur sport dans le salon des maires, et après le Covid, avec l'ensemble des partenaires, sport et territoire, le CNOSF, le CPSF, les fédérations et différentes associations qui participaient à cet événement depuis de nombreuses années, il nous a semblé essentiel en fait de créer un salon. Enfin, le premier, finalement, salon en France dédié au sujet du sport et du parasport, et notamment aux investissements du sport. Ces investissements qui sont à 80% portés par les collectivités, d'où effectivement l'existence et la cohabitation avec le salon des maires. Ce salon, il rassemble, comme vous le disiez, de nombreux acteurs, les collectivités, les associations, fédérations et les entreprises qui proposent les solutions en termes d'aménagement, d'équipement et de pratiques sportives. Le rôle de ce salon, c'est vraiment de faire la promotion du sport pour tous et sur tous les terrains, pour tous, des plus jeunes ou moins jeunes, et puis sur tous les terrains, sur tous les territoires et sur toutes les spécificités finalement du terrain, dans les clubs et hors des clubs, dans les villes, dans les campagnes, et nous allons effectivement parler aujourd'hui du contexte spécifique de la montagne qui est notre thématique. Alors on démarre cette année, mais on va évidemment aborder ce sujet dans la durée, puisque le sujet est le refuge des sports de montagne dont vous parliez, qui sera, donc nous allons présenter pour la première année, aura lieu de façon très continue, même au-delà de 2030, puisque c'est nous avons effectivement pu réunir un collectif de partenaires autour de cette thématique et identifier des enjeux tout à fait spécifiques aux sports de montagne et aux territoires de montagne dont vous allez effectivement pouvoir nous dire quelques mots.
Et alors justement, pour en revenir, juste le salon met en avant des transformations sociales, vous l'avez dit, environnementales du sport, donc inclusion, durabilité, équipement sobre, pratiques nouvelles. Comment justement, en tant qu'organisatrice du salon, vous avez essayé de choisir ces priorités, le choix des exposants, la programmation, comment ça s'est fait tout ça ?
En dialoguant. En fait, on a beaucoup écouté l'ensemble des acteurs et ces thématiques, elles convergent quelles que soient les organisations, que ce soit au cœur des préoccupations des acteurs. On parlait tout à l'heure du CNOSF et du CPSF. Oui, donc, quand on parlait avec le CNOSF, on parle aussi avec le CPSF. Donc la place du parasport, elle nous a semblé évidente et au même niveau que l'ensemble des pratiques. Ça, c'est une de nos spécificités. Donc sur le salon des sports, vous allez pouvoir rencontrer énormément d'acteurs qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans la pratique sportive et qui font aussi la promotion pour les attirer aussi plus massivement, à la fois dans des investissements en termes d'équipement d'aménagement, mais également en accompagnant les personnes qui les accueillent pour qu'elles soient aussi en capacité de les accueillir. Donc ça, ce sont des sujets qui sont remontés très très fortement de nos différents échanges. Et puis ensuite, la transition écologique, c'est un enjeu évidemment qui frappe le monde du sport de façon très forte. Les aménagements et équipements ont très tôt finalement intégré des solutions beaucoup plus durables. Il n'en est pas moins qu'il reste un chemin assez long. Il y a encore énormément d'investissements à faire. Et donc, l'ensemble du monde sportif est très... et on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Et je pense qu'il y a un avant et un après sur ces sujets-là, dans la façon dont, dans les cahiers des charges, on aborde la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau et les différents matériaux utilisés. Donc, voilà. Donc, ces dialogues nous ont permis effectivement d'identifier ces sujets et de les mettre en avant. Il y en a d'autres. Il y a aussi effectivement la place aussi du sport pour les seniors, qui est un sujet important, et comment le sport, ce n'est pas simplement dans l'école, que ce n'est pas seulement dans les clubs, mais finalement comment les investissements des collectivités et des acteurs du secteur privé vont permettre à l'ensemble de la population de pouvoir développer leurs pratiques sportives.
Alors, on va parler justement du refuge. Donc, vous l'avez dit, un espace dédié au sport de montagne, une première pour ce salon. Olivier, quand vous avez appris que le salon créait cet espace, quelle a été votre réaction en tant que représentant des élus de la montagne ?
Bien, on a été très, très surpris de cette création et très ravis surtout de pouvoir être associés à cette création du refuge, en sachant que la montagne est bien souvent un refuge climatique ou un refuge pour venir découvrir des pratiques sportives, mais aussi pour découvrir un vrai environnement qu'est la montagne, une vraie identité montagnarde. Et donc, on est ravis d'être associés et on remercie beaucoup les organisateurs.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'ANEM ?
Alors, l'ANEM est une association d'élus un petit peu atypique qui a la vocation à représenter tous les territoires de montagne. Les territoires de montagne, c'est pas seulement des communes, c'est aujourd'hui 6000 communes qui sont classées montagne par la loi, mais c'est aussi des départements, une quarantaine, et 6 régions qui ont des zones de montagne. Donc, c'est ça la communauté des élus qui adhèrent à l'ANEM aujourd'hui. Et donc, notre rôle, c'est simplement de défendre ces territoires de montagne. Et pour reprendre vos mots, on est des territoires spécifiques. Et des territoires spécifiques, ça veut dire qu'on a des contraintes spécifiques naturelles liées à l'altitude, la pente et le climat qui doivent être compensées. Et donc, c'est le rôle de notre association qui s'adosse à une loi spécifique de 1985 qui fête ses 40 ans et qui prévoit que l'ensemble des politiques publiques doivent être adaptées à la spécificité des territoires et les enjeux liés à tout ce qui est adaptation au changement climatique, développement économique, le tourisme et le sport sont indissociables des thématiques qui sont organisées au sein de notre association.
Alors, on parle beaucoup... déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos missions ? En fait, c'est quoi les missions de l'ANEM ? Donc là, vous nous avez expliqué qui vous représentez. Donc, vos missions, c'est quoi ?
Les missions, c'est de défendre les territoires de montagne, c'est d'apporter un service à nos adhérents, c'est aussi un lieu d'échange entre différents niveaux de collectivités, des élus, par exemple, du Massif central, qui ne seraient pas forcément croisés, des élus de Corse, pourtant, ils ont les mêmes problématiques. Ça va de comment on arrive à adapter le modèle touristique, mais aussi comment on peut maintenir une classe ouverte en montagne avec une loi qui prévoit un certain nombre de dispositifs spécifiques. Oui. Et donc, notre rôle, c'est de faire appliquer ces dispositions spécifiques. Un exemple, en montagne, on ne ferme pas une école avec le même seuil que sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a des particularités. Vous avez des gamins qui sont mis sur les routes dès 6h du matin, c'est pas possible. Et vous devez adapter un certain nombre de dispositions. Pareil sur l'accès aux soins et aussi sur les enjeux touristiques. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la communauté des élus de montagne soit encore considérée au niveau national et que, en 2050, ce territoire soit encore habitable, qu'il y ait encore une économie du tourisme et des services publics.
Alors, on parle beaucoup de la fin du tout-neige. L'ANEM accompagne-t-elle les élus justement dans cette transition vers de nouvelles pratiques sportives ?
Alors effectivement, comme je le disais, le sport est indissociable de la montagne. L'adaptation au changement climatique est beaucoup plus prégnant en montagne. Ça va beaucoup plus vite, ça se réchauffe plus vite et ça se voit plus. Les derniers jours ont encore témoigné avec un certain nombre d'éboulements dans des territoires. Donc le rôle de l'ANEM est justement de préparer ces territoires au tourisme de demain. Donc on a notamment été missionné par le gouvernement précédent sur une feuille de route pour adapter justement les territoires de montagne et notamment les stations de ski au changement climatique. C'est-à-dire qu'il faut anticiper le modèle touristique et le modèle touristique doit être diversifié. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les enjeux du sport d'hiver, mais il y a aussi la montagne toute l'année. Comment on arrive à développer d'autres activités l'été pour faire venir découvrir nos territoires, l'identité de ces territoires, l'agriculture et à ce titre-là, le salon parasport et sport est une formidable opportunité et les JO aussi.
Bien sûr. Stéphanie, comment le salon répond-il concrètement à ces enjeux de transition et d'adaptation au changement climatique, justement, dans sa programmation ?
Alors, c'est dans votre phrase, c'est qu'en fait, déjà, on le met dans la programmation. Donc, nous, on propose un cadre qui permet ensuite aux différents partenaires, aux entreprises, aux associations, de s'emparer de ce cadre et de nous proposer des sujets qui vont effectivement permettre d'avoir une programmation assez complète, riche et diversifiée sur ces différents sujets-là. Donc, en notre rôle, en fait, c'est de définir ce cadre qui va permettre finalement le déploiement de ces solutions et de ces échanges. Donc, on va effectivement avoir différents espaces de conférences sur le salon des sports et parasports qui vont aborder ces différents sujets. Après 3 éditions, on voit le sujet de la transition écologique est très fortement présent. On le verra sur le refuge des sports de montagne. Effectivement, la spécificité de ce territoire fait qu'en termes d'adaptation, la gestion des risques est très très forte. Donc, on a beaucoup été en réaction. Aujourd'hui, effectivement, il faut planifier. Il faut faire des investissements qui permettront aux collectivités d'être plus résilientes, d'être plus en capacité aussi de répondre aux différents accidents climatiques qui se multiplient. Donc c'est aussi sa connexion avec le Salon des maires est assez fondamentale puisque il va effectivement nécessiter des échanges et des dialogues avec les acteurs de l'aménagement de la construction, les acteurs de l'environnement. On parle aussi beaucoup de sécurité quand on parle de la montagne et du sport de montagne. Donc c'est aussi la sécurité, donc c'est aussi une façon d'aborder évidemment les enjeux du réchauffement climatique, mais également de la pratique sportive pour permettre aussi d'accompagner les différents pratiquants, les rassurer sur les conditions et la sécurité. Il y a beaucoup d'accidents chaque année sur les différentes pratiques. Ça positionne parfois les sports de montagne comme un sport un peu extrême. Alors le sport de montagne, c'est pas un sport extrême, c'est un sport effectivement qui nécessite un encadrement, un accompagnement tout à fait particulier. Et sur le salon, nous sommes aussi entourés d'associations, d'organisations qui justement jouent ce rôle d'accompagnant et qui vont beaucoup aborder ce sujet de la sécurité pour aussi faire la promotion de la pratique sportive en peut-être la sortant aussi parfois d'une enclave ou pour les sportifs des villes que nous sommes pour en tout cas aborder ces pratiques sportives de façon plus douce, plus accompagnante, plus rassurante et on l'espère en tout cas amener de plus en plus de pratiquants sur cette diversité d'activités.
Alors les Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises approchent tout doucement. Edgar Gros-Piron a été nommé président du COJOP, le comité d'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était en février dernier. L'ANEM a-t-elle été associée à la préparation de ces Jeux et quel regard justement vous portez sur ce projet ?
Alors évidemment que nous avons été associés puisque les deux régions qui portent ce projet, que ce soit la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Auvergne-Rhône-Alpes, sont des membres de l'ANEM et donc on pense que les Jeux Olympiques de 2030 sont une formidable occasion d'avoir une vitrine de la montagne française au niveau international. C'est comme ça qu'on le conçoit au niveau de l'ANEM et on a trois enjeux principaux. Bien évidemment, vous l'avez dit, madame, il faut absolument qu'au niveau environnemental, il soit exemplaire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, de par les infrastructures qui vont être créées, mais aussi les infrastructures routières, ferroviaires, qu'on soit en un temps d'avance et qu'on anticipe le changement climatique et qu'on puisse avoir un modèle vertueux. Ça, c'est le premier point. Il faut qu'on ait aussi, pour les territoires de montagne, un héritage. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va laisser après ces JO ? Et donc, ce qui est très important, c'est la pratique de la montagne, c'est la découverte de la montagne via le sport. C'est souvent la première approche qu'on a. Mais aussi, c'est la nécessité de pouvoir apprendre à comment on se comporte en montagne pour éviter, effectivement, le syndrome de certains conflits d'usage ou qu'on puisse penser que c'est réservé à une élite. Pas du tout. La montagne montagne, elle offre à la nation de l'air pur, de l'eau pure, des produits de qualité. Et donc, c'est tout ça qui participe de ces Jeux Olympiques. Donc, nous, on voudrait vraiment développer tout ce qui est éducation à la montagne, à l'environnement. Et ça passerait notamment par la relance d'une chose toute bête, mais qui a beaucoup baissé ces dernières années, c'est la classe verte et les classes de découverte, pour que dès le plus jeune âge, on découvre cet environnement et qu'ensuite, on ait envie d'y retourner pour faire du sport ou pour faire autre chose ou pour s'y installer. Donc les JO sont une vitrine et c'est un enjeu très important. Maintenant, le délai est quand même court. 2030, c'est très très rapide. Nous, on espère effectivement que très rapidement, le projet de loi qui est en cours sur les JOP qui permettent d'accélérer un certain nombre de procédures pour construire, pour rénover, soit vite adopté par le Parlement. Parce que les grands enjeux, c'est déjà de réhabiliter et de rénover toutes les habitations qui sont en montagne et qui sont un peu vieillissantes, et de prévoir des infrastructures qui seront réversibles pour l'avenir.
Est-ce que les JO 2030 font partie de la programmation du salon ?
Oui, bien sûr. Alors, quand on parle des sports de montagne, on parle de tout type de sport. Tous ne sont pas des sports olympiques. Donc ça, c'est déjà important. Et nous, on va évidemment aborder les sports d'hiver, mais également les sports d'été, les sports de printemps, les sports d'automne. Les vacances de la Toussaint arrivent bientôt. Ils sont intégrés, ils participent à notre comité également d'organisation pour que l'on puisse aussi, avec les différents partenaires, échanger sur tous les sujets effectivement qui vont permettre l'organisation de ces jeux, et puis effectivement tout ce que l'on en attend au niveau des territoires de montagne pour justement ce que vous disiez mettre l'attention sur les nécessaires investissements qui sont attendus en termes évidemment d'infrastructures, d'accessibilité, de rénovation énergétique et d'attractivité territoriale. Ce sont des territoires effectivement, alors on le voit ces derniers étés, qui attirent de plus en plus de familles, de tourisme. Et du coup, ce tourisme grandissant met aussi l'accent sur les investissements qui sont nécessaires pour également accueillir les personnes en situation de handicap. Dans les JO, on verra, il y a des pratiques effectivement sportives, parasport. Et ce sont aussi des investissements importants que les stations de montagne, ont en tête et doivent réaliser. Quand on est en situation de handicap, la pratique du sport de montagne paraît parfois inaccessible. C'est un sujet que l'on va aussi aborder largement avec des animations dédiées à des pratiques parasportives de montagne. Et puis la spécificité des sports d'hiver, on l'espère que ces JO, on aimerait que ne pas attendre 2030, mais en tout cas valorise aussi le parasport d'hiver. Et on espère aussi qu'il y aura plus de sports d'hiver qui pourront accueillir des parasportifs, puisqu'aujourd'hui, effectivement, ce sont encore que quelques sports qui sont adaptés pour tout un tas de raisons. On a beaucoup à faire en termes d'infrastructures et de créativité aussi pour s'adapter aux pratiquants parasportifs et permettre plus finalement d'opportunités, de diversité dans les sports parasportifs.
Alors, vous avez cité plein de choses. On comprend que la programmation sera hyper riche. Si vous deviez indiquer les temps forts pour les futurs visiteurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils ne doivent absolument pas louper ? J'ai noté qu'il y avait il y a 90 conférences, c'est ça,
Oui, alors, vous aurez du mal à obtenir de moi de choisir parmi l'ensemble, puisque je serai là pendant les 3 jours et je ne manquerai aucun moment. Vous avez du mardi au jeudi après-midi énormément de choses qui vont se dérouler.
Il y a des espaces immersifs.
Effectivement, il y a déjà le refuge des sports de montagne où vous allez pouvoir rencontrer les différentes associations, les partenaires avec lesquels nous travaillons, les experts qui vont justement pouvoir aborder avec l'ensemble des élus, des directions sportives, un certain nombre de sujets et de projets. On espère que ça va permettre de faire avancer vos sujets. On va avoir des démonstrations, des animations. Vous allez pouvoir faire du parapente. On va faire du parapente à la porte de Versailles. Eh ben, venez voir. On va faire de l'escalade. On va pouvoir effectivement pratiquer aussi, tester des parcours ninja. On va pouvoir débattre aussi sur différents sujets. On va pouvoir se disputer, j'espère, un peu, parce que parfois c'est bien. Ça crée aussi la créativité, le débat. Et puis, on va aussi se réjouir, avoir des moments de convivialité. C'est un moment de rassemblement. Le mercredi est une très belle journée avec un très beau programme assez large. Et puis, je ne ferai pas de choix spécifiques. En tout cas, j'espère que l'on pourra répondre, en tout cas, aux attentes des collectivités pour faire avancer ce beau sujet de la pratique sportive.
Et alors, justement, Olivier, quelles sont les attentes des collectivités? De votre côté, quelles contributions ou quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de cet événement?
L'idée, c'est effectivement de mettre en relation le monde sportif avec le monde des collectivités, et le fait que la proximité de ces deux stations va faire se rencontrer des gens. Et c'est un peu, je dirais, l'ADN de notre association, de l'ANEM, c'est de faire un vrai lieu de débat et d'échange, parfois vif, tendu, avec des opinions qui ne sont pas toujours les mêmes. On n'a pas les mêmes attentes dans les Alpes que dans les massifs centrales ou dans les Pyrénées. Mais l'objectif, c'est d'avoir effectivement, à la fin, un cadre qui fasse que ces Jeux Olympiques, ces salons sport, parasport, mettent vraiment l'accent sur ces territoires de montagne. Et il y a un mot qui est très important pour nous, c'est la solidarité montagnarde. Ça a un sens, c'est-à-dire que quelle que soit l'origine de notre massif, de notre commune, on se retrouve tous dans une communauté, et je pense que ce salon sera l'occasion effectivement de pouvoir se rencontrer des gens et de préparer ces JO dans les meilleures conditions possibles.
Pour terminer, question, qui est la cible de ce salon? Est-ce qu'il y a une cible en particulier?
Alors, comme je le disais, 80% des investissements pour accueillir la pratique sportive sont faits par les collectivités. Donc, évidemment, les maires, les élus en charge du sport, les directions sportives des collectivités, des départements, des régions sont le premier visitorat qui participe à cet événement. Mais vous avez également les associations, les clubs sportifs, l'ensemble des fédérations et toutes les entreprises de l'économie du sport. Sport et parasport, on n'en a pas parlé, mais on a également un volet e-sport,
Donc le sport en ligne.
Exactement, dont on pourra débattre effectivement de sa place aujourd'hui dans l'économie du sport. Et puis effectivement les pratiquants, n'hésitez pas à venir, c'est un salon qui est ouvert, il y a des animations et vous pouvez tester justement différentes pratiques sportives, des nouvelles pratiques aussi inconnues. Donc c'est toujours aussi le moment de découvrir un nouveau sport, parce que des nouveaux sports, ils sont créés tout le temps. C'est aussi important, parce que il n'y a pas que le foot, le tennis et le basket, et il y a énormément de nouvelles pratiques qui sont aussi...
Oui, il y a le lagri, il y a le pilates réformeur par exemple.
Oui, voilà, alors tout à fait de nom. Alors après, on pourrait se demander à qui ils sont effectivement destinés, parce qu'il faut déjà être capable de les prononcer. Mais en tout cas, on peut les découvrir. Et sur notre salon, toutes les animations sportives sont à la fois pour les sportifs valides et également pour les parasportifs ou ceux qui veulent devenir potentiellement... et pouvoir intégrer des clubs qui vont aussi s'orienter vers des solutions beaucoup plus inclusives. C'est aussi un des sujets très forts que nous avons sur notre événement.
Alors, pour prendre sa place, c'est du 18 au 20 novembre à la Porte de Versailles. C'est en parallèle du Salon des maires et du Congrès des maires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura un maximum d'élus. Pour prendre sa place, comment on fait? Il y a un site internet?
Vous allez sur le site internet, c'est gratuit. Vous enregistrez et voilà.
Tout simplement.
Et vous venez avec la volonté de contribuer à l'intérêt général et de faire avancer ces beaux sujets au niveau de votre collectivité.
Voilà, donc le salon des sports et des parasports sera un moment clé pour, on l'a compris, échanger, découvrir des innovations, nouer des coopérations entre collectivités, acteurs du sport, associations et entreprises. Et les enjeux de montagne gagneront à être entendus. Merci à vous deux pour vos échanges clairs et francs. Et on se retrouve très prochainement, justement, pour une nouvelle émission consacrée à un prochain événement.